Vous êtes bien sur RFI, Radio France Internationale. Il est 10h30 ici à Paris, 8h30 en temps universel.
Xavier Besson.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition d'Afrique Matin. À la une ce matin, la Guinée et l'opposant Seloud Alain Diallo qui assure que les militaires au pouvoir sont en train de préparer, dit-il, une mascarade électorale. Vous l'entendrez dans un instant. La Guinée où 2025 est une année électorale, a commencé par le référendum constitutionnel prévu en septembre. Dans ce journal également, le Gabon, après le premier tour de l'élection présidentielle hier, sans incident majeur et globalement dans le calme, les autorités promettent des résultats à partir de la mi-journée. La République démocratique du Congo, où un groupe armé Wazalendo revendique les combats qui ont touché la ville de Goma dans la nuit de vendredi à samedi. Et puis l'on parlera aussi de la visite aujourd'hui au Maroc du ministre français de l'Intérieur. Ambiance de pré-campagne électorale en Guinée. Le premier des scrutins qui doivent mettre fin à la transition est prévu pour le mois de septembre. Ce sera un référendum sur une nouvelle constitution. Hier, les militaires au pouvoir à Conakry ont organisé une marche pour la paix en soutien à la candidature de Mamadi Doumbouya, le chef de l'État, chef de la junte à Conakry, qui n'a pas encore dit s'il serait candidat à la prochaine élection présidentielle. Au même moment, hier, l'opposant Seloud Alain Diallo était lui en visioconférence depuis Dakar où il vit en exil, et le président du parti UFDG a beaucoup de choses à reprocher au chef de la transition.
Nous avons soutenu et fortement leurs militaires lorsqu'ils ont pris le pouvoir. N'ont-ils pas dit qu'ils allaient mettre fin à l'instrumentalisation de la justice, au piétinement des droits et libertés des citoyens, et qu'ils allaient organiser avec diligence le retour à l'ordre constitutionnel en remettant le pouvoir à celui que le peuple aura choisi? Combien de gens ont été abattus parce qu'ils tentaient d'exercer un droit fondamental, celui de manifester dans les rues et sur les places publiques? Il y a plus de 60 jeunes qui ont été abattus. Où sont aujourd'hui Fonike Mangé, Biloba, Marwan Camara, Sadou Simaga? Aujourd'hui, nul d'entre nous ne sait si ces messieurs sont vivants ou morts. Il faut vite finir la transition en légitimant Doumbouya par une mascarade électorale organisée par l'OMATD et les préfets avec le soutien des présidents des délégations spéciales nommés en raison de leur adhésion à l'idée que Mamadi, c'est l'homme providentiel et qu'il faut le maintenir au pouvoir.
L'opposant guinéen, Seloud Alain Diallo, et au Sénégal, d'où il s'exprimait, un journaliste vient à nouveau d'être placé en garde à vue, Simon-Pierre Faye, rédacteur en chef de CNTV et Zik FM, deux chaînes privées qui comptent parmi les plus suivies du pays, arrêté donc jeudi, et il devrait être présenté à un juge demain pour diffusion de fausses nouvelles. En cause, la reprise d'une information à propos d'une supposée convocation du Premier ministre sénégalais par le président ivoirien. Ce matin, les organisations de défense des droits humains et les représentants du secteur de la presse au Sénégal appellent à sa libération. Écoutez Bakary Seydi, le secrétaire général de la Fédération des acteurs de la communication et de l'information.
Ça a été une grande surprise pour nous, hein, d'autant plus que Simon Faye fait partie d'un journaliste de référence au Sénégal. Non seulement il est connu pour son professionnalisme, il est connu pour sa probité morale, mais également c'est un journaliste très à cheval sur les règles d'éthique et de déontologie. Déjà dans un premier temps, nous on pense que un simple communiqué des services de la communication de la primature aurait suffi pour mettre un terme à ce débat déjà. Parce qu'il n'est pas l'auteur de l'article en question. On lui a prêté le fait de reprendre un article déjà publié et diffusé par d'autres médias. On ne peut pas considérer ça comme un acte isolé. Pour nous, tout cela participe d'une stratégie de bras de fer engagée par l'État avec les acteurs des médias. Et ça doit cesser. Parce qu'on dit souvent que Charles Echaudé craint l'eau froide. Ça veut dire que tout ce qu'on a combattu avec le régime de Macky Sall, c'est comme si le monstre qu'on avait combattu est en train de revenir de plus belle avec plus de force sous de nouveaux habits. Donc il est grand temps de mettre un terme à ce bras de fer entre l'État et les acteurs des médias.
Bakary Seydi, secrétaire général de la Fédération des acteurs de la communication et de l'information du Sénégal. Au Gabon, le ministère de l'Intérieur promet des résultats à partir de la mi-journée ce dimanche. Le Gabon qui a voté hier dans le calme et globalement sans incident majeur. Premier tour de l'élection présidentielle un an et demi environ après le coup d'état du général Oligui Nguema. Hier soir, les autorités assuraient que 87% des électeurs avaient pris part au vote présidentiel. En Côte d'Ivoire, elle est prévue là au mois d'octobre. Hier, l'ancien président Laurent Gbagbo a tenu un meeting et il a répété ses critiques envers la commission électorale, désormais qualifiée d'inféodée au pouvoir. La veille, son parti a quitté justement cette commission alors que Laurent Gbagbo souhaite se présenter à la prochaine présidentielle, mais a été radié des listes électorales. L'actualité en République démocratique du Congo avec une revendication après les combats qui ont touché certains quartiers de Goma dans la nuit de vendredi à samedi. Goma, la grande ville de l'est de la RDC, contrôlée depuis la fin du mois de janvier par l'AFC M23. Revendication qui vient d'un groupe Wazalendo, une milice locale dans le camp de l'armée congolaise. De son côté, l'armée, qui était mise en cause par le M23, n'a pas encore communiqué. Et pour le chercheur Ones Force Matumba de l'International Crisis Group, en fait, ces miliciens Wazalendo avaient plusieurs messages à faire passer.
On assiste à une sorte de stratégie du harcèlement qui n'a pas commencé à Goma. Cela a commencé au sud Kivu. On a vu beaucoup d'attaques sur des positions M23 ou sur des villages de la part de cette nébuleuse qui s'appelle Wazalendo. Et je ne dirais pas qu'il y a un objectif stratégique. C'est vraiment une communication envers le M23 en disant « Nous avons notre capacité de nuisance et donc il faut compter avec nous ». Ça, c'est un message clair, donc le refus de disparaître, mais c'est aussi une communication envers les autorités nationales de Kinshasa. C'est un appel du pied de façon à dire « Bon, écoutez, nous sommes là, nous avons besoin d'appui pour continuer à être efficaces. Nous avons fait ça et ça et ça, mais si nous étions mieux outillés, on ferait plus ». Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est de la propagande, mais ça y ressemble beaucoup.
Le chercheur Ones Force et Matumba avec Florence Maurice. Le ton est-il de nouveau en train de monter entre la France et l'Algérie ? L'Algérie qui s'insurge contre la détention en France d'un agent consulaire algérien, accusé d'être impliqué dans une tentative d'enlèvement d'un opposant en exil. Alger dénonce une affaire inadmissible, alors que de son côté, dans le même temps, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est au Maroc aujourd'hui pour parler notamment des questions d'immigration. Raphaël Delvolvé.
Avant même le début de la visite, le ministère français de l'Intérieur se félicite d'un chiffre spectaculaire. L'octroi de laissez-passer consulaire, ces documents remis par le pays d'origine pour permettre les expulsions d'un étranger en situation irrégulière, ont bondi de 93% entre janvier et février dernier par rapport à la même période 2024. Façon pour Bruno Retailleau d'afficher aux côtés d'Abdelwafi Laftit, son homologue marocain, une forme d'efficacité retrouvée dans la coopération migratoire. Cette dernière, longtemps bloquée par une brouille diplomatique entre Paris et Rabat qui réduisait à néant les octrois de visa pour la France et la reprise de personnes en situation irrégulière pour le Maroc. Depuis, un partenariat renforcé a été conclu dans le sillage de la reconnaissance par Paris de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental l'été dernier. Un bouger majeur à l'origine d'une autre crise entre la France et l'Algérie, le rival historique du royaume, avec lequel de surcroît Bruno Retailleau entretient des relations exécrables.
Raphaël Delvolvé, un accord de principe a été trouvé hier à l'Organisation mondiale de la santé. Les États membres se sont accordés sur un texte qui doit permettre de mieux protéger le monde des futures pandémies. Dernière négociation avant des validations normalement mardi à Genève, à l'OMS. Mais déjà, des ONG alertent, le texte est trop flou, notamment sur le transfert de technologies médicales. Écoutez ce qu'en dit James Love, le directeur de l'ONG Knowledge Ecology International.
L'industrie pharmaceutique a travaillé en étroite collaboration avec l'Union européenne pour affaiblir le texte. L'UE a mené la charge contre les dispositions qui auraient permis au gouvernement de réguler les laboratoires en cas d'urgence, pour les obliger à partager leurs technologies. Et ce, alors même que, dans sa propre législation, elle se réserve ce droit. Elle impose donc à l'échelle internationale des limites qu'elle ne s'applique pas à elle-même. Résultat, un double standard qui risque de priver les pays en développement des outils nécessaires en temps de crise. Cela dit, le texte final maintient une certaine flexibilité. Les États signataires, y compris en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, pourront quand même adopter chez eux des mesures similaires à celles prévues dans le droit européen. Pour nous, c'est loin d'être parfait. Mais c'est un début. Ce texte marque le début d'un processus qui ne sera pas terminé avec la signature de l'accord, que ce soit mardi ou lors de l'Assemblée mondiale de la santé en mai.
Des propos recueillis par Christina Okello. Et puis avant de retrouver Elgas dans quelques instants pour continuer à parler du fleuve Congo, hameau du marathon de Paris, remporté tout à l'heure chez les hommes par le Kenyan Bernard Biwott en 2h05, et il y a quelques instants pour les femmes par Bedatu Ipra, l'Éthiopienne.